commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Accent d'Europe sur RFI, nous allons en Irlande aujourd'hui pour commencer. L'Irlande où le soutien aux Palestiniens est une cause très populaire. Ce soutien s'explique par la propre histoire de l'Irlande, elle-même occupée et soumise à la Grande-Bretagne pendant des siècles. Par-dessus tout, la mémoire de la grande famine de 1846 qui a tué 1 million d'Irlandais et poussé 1 million d'autres à l'exil est toujours bien vivante et elle est ravivée par le conflit israélo-palestinien. La position unique en Europe des Irlandais face au conflit au Proche-Orient, c'est le sujet du reportage à Dublin de Clémence Pénard.
Pas de trèfle pour Joe Biden, c'était le 17 mars en pleine Saint-Patrick. De nombreux Irlandais faisaient alors référence à cette coutume qui veut que ce jour-là, le Premier ministre offre symboliquement au président américain un bol de trèfle. Or, pour eux, le conflit israélo-palestinien ne pourrait tout simplement pas se poursuivre sans le soutien militaire de Washington. Dans la foule, Brian O'Gerta, qui travaille pour la campagne de solidarité Irlande-Palestine, à l'origine de beaucoup de manifestations à Dublin depuis le 7 octobre.
Tout le monde en Irlande a une sorte de souvenir de la famine. Tout le monde a en mémoire la guerre d'indépendance. Donc les Irlandais comprennent à quoi les Palestiniens sont confrontés profondément. Nous avons ici l'occasion d'être leaders et de créer des mesures concrètes que d'autres pays suivront. Concrete steps
that other countries will follow. Quartier populaire de Phippsborough, nous retrouvons dans ses bureaux Daniel Lambert, lui aussi assume le mot génocide. 17,000 views in half an hour. Daniel est une célébrité locale. Il dirige le club de foot le plus politisé d'Europe, à gauche toute, le Bohemian FC. Pour Daniel, le monde du sport doit lui aussi se mobiliser. Depuis l'année dernière, les joueurs du club revêtent un maillot aux couleurs de la Palestine. Ils organiseront également un match amical en mai avec des footballeuses palestiniennes. D'après ce grand roux aux yeux bleus, les cicatrices de la colonisation par les Britanniques sont toujours douloureuses en Irlande. France, Germany,
la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, tous ces pays ont colonisé le monde. L'Irlande est le seul pays occidental à avoir été colonisé par un autre pays européen, par la Grande-Bretagne. Donc nous avons connu la destruction de notre culture à différents moments de notre histoire. Il y a eu des famines, des guerres, des persécutions. Donc je pense que nous avons cette compréhension générale de ce que font les colonisateurs, parce qu'ils ne se contentent pas d'essayer de prendre vos terres et vos richesses, ils essaient de prendre jusqu'à votre propre identité.
Les deux peuples, irlandais et palestiniens, partageraient ainsi une histoire commune d'oppression. C'est ce qu'explique l'avocat Gary Daly, cravate aux couleurs du kéfier, le foulard noir et blanc palestinien.
Les lois introduites par les Britanniques les plus connues ici, ce sont les lois de Kilkenny. Elles ont interdit de parler la langue irlandaise, elles ont interdit de jouer à des jeux locaux, et le catholicisme aussi a été interdit. Donc ces lois irlandaises, qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années, sont motivées, je pense, par une idée assez similaire.
Hello. Good morning. Selon Dylan Warba Abdelmajid, l'ambassadrice pour la Palestine en Irlande, ici le sentiment pro-palestinien dépasse largement les partis de gauche.
La Palestine a réuni tous les Irlandais autour d'une même table. L'opposition et le gouvernement, tous sont vraiment solidaires. Les États-Unis, au lieu de se ranger du côté d'Israël, s'ils voulaient être justes et mener un véritable processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, je pense qu'ils pourraient le faire. Ils l'ont fait avec l'Irlande du Nord, mais j'espère qu'ils le feront avec de la bonne volonté pour les Palestiniens.
Aujourd'hui, certains espèrent que l'Irlande, avec sa solution à deux États, pourra également servir de modèle pour la paix. Le gouvernement irlandais avait été le premier en Europe à critiquer les bombardements israéliens. Simon Harris, qui deviendra officiellement le nouveau Premier ministre irlandais demain, partage cette position. Et l'Irlande doit même prochainement intervenir dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de justice.
We'll be right back. l'Allemagne, contrairement à l'Irlande, c'est une relation particulière et amicale avec Israël qui prévaut. Et cela s'explique évidemment par l'histoire du pays avec le peuple juif, comme nous l'explique notre correspondant à Berlin, Julien Michossi.
Chaque année, l'Allemagne continue de verser 300 millions d'euros de pensions d'indemnisation à des victimes du nazisme installé aujourd'hui en Israël. Plus de 70 ans plus tard, l'Allemagne entretient des relations très étroites avec l'État hébreu. Échanges culturels, scolaires, coopération scientifique et militaire, jumelage entre ville et village. Berlin est même devenu l'un des principaux partenaires économiques européens d'Israël. Et cela se traduit au quotidien dans la capitale allemande où vivent plus de 30 000 Israéliens. Pour la plupart de jeunes diplômés attirés par son identité libertaire et ouverte sur le monde, si l'horreur des attaques du Hamas le 7 octobre dernier et la réponse militaire qui en a suivi ont également provoqué ici une forte augmentation des actes et paroles antisémites, l'immense majorité de ces citoyens israéliens n'a jamais songé à quitter Berlin. Pour beaucoup, l'Allemagne constitue le pays qui leur garantit le plus de sécurité. En visite officielle à Jérusalem en 2008, l'ancienne chancelière Angela Merkel avait eu des mots qui résonnent encore aujourd'hui. La responsabilité historique de l'Allemagne fait partie de la raison d'État de mon pays. En tant que chancelière allemande, la sécurité d'Israël ne sera jamais négociable. Cela n'empêche pas l'Allemagne de considérer les colonies comme contraires au droit international ou de critiquer les bombardements contre la population civile à Gaza. Au lendemain du 7 octobre, Olaf Scholz a réaffirmé cette raison d'État et son soutien à Israël, conscient qu'il en va de la réhabilitation de l'Allemagne.
Direction l'Écosse à présent, où une loi entrée en vigueur le 1er avril dernier fait beaucoup de vagues. Cette loi s'appelle la loi contre les crimes de haine. Pour certains, il s'agit d'une avancée dans la protection des minorités, mais pour d'autres, elle signe la fin de la liberté d'expression en Écosse, rien de moins. Franceline Beretti a tenté pour nous d'y voir clair avec son œil européen.
Cette loi très controversée est dans la sacoche des indépendantistes depuis des années. Le but, c'est d'étendre à d'autres caractéristiques le périmètre d'une loi qui existe déjà pour lutter contre la haine raciale.
La loi crée un crime d'incitation à la haine relative à l'âge, au handicap, à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'identité transgenre ou au fait d'être intersexe.
Mais pour être honnête, c'est surtout une de ces caractéristiques qui enflamme le débat.
Donc si je vous donne une gifle en vous traitant de vieux crouton, cela peut être une agression aggravée par de la haine liée à l'âge.
Non, les insultes envers les vieux ne préoccupent personne, contrairement à celles envers les personnes transgenres. La question est de savoir si le fait de méjorer quelqu'un constitue une incitation à la haine. Mégenrer, c'est-à-dire désigner au masculin un homme s'identifiant comme une femme. Ne pas dire qu'il s'agit d'une femme. J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, est la porte-voix de ce camp dans le monde anglo-saxon. Elle dénonce allègrement ceux qui, selon elle, prétendent être des femmes et sont placés dans des prisons pour femmes, dans des compétitions sportives féminines ou veulent bénéficier des politiques de quotas. Et pour ça, elle est menacée, comme elle le racontait dans un podcast, lui aussi très controversé, ce qu'elle nomme son procès en sorcellerie.
J'ai eu des gens qui sont venus jusque chez moi, où vivent aussi mes enfants. Mon adresse personnelle a été publiée sur Internet. J'ai eu ce que la police a de toute façon considéré comme des menaces crédibles.
Dès l'entrée en vigueur de la loi, en Écosse, plusieurs associations de défense des droits des personnes trans ont porté plainte contre J.K. Rowling. Mais l'écrivaine est restée droite dans ses bottes, comme le raconte France Culture.
J.K. Rowling a affirmé hier être impatiente d'être arrêtée si ses propos tombaient sous le coup de la nouvelle loi. Son message se terminait même par le hashtag ArrestMe, arrêtez-moi, relève The Scotsman.
Un juriste, ancien membre conservateur du Parlement écossais et défenseur de la loi, Adam Tompkins, estime que tout ça est monté en épingle. Selon lui, mégenrer une personne ou dire que le sexe biologique est une réalité ne constitue pas un crime ou un délit avec ce texte. Cela relève clairement de la liberté d'expression, que l'on s'en réjouisse ou pas. Pourtant, cela fait l'objet d'un débat au Royaume-Uni et en France, où la journaliste et activiste Dora Mouto est mise en examen pour mégenrage. Une émission de France 2 l'a mise en face de la responsable politique Marico, née homme biologique et devenue femme, et lui a posé cette question.
Pour vous, Mariko, c'est une femme pour vous ou non ?
Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle, sauf que cette personne a des goûts, en fait, qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme.
Deux associations ont porté plainte contre Dora Mouto pour incitation à la haine, diffamation et insulte. La date du procès n'est pas encore fixée. En Allemagne, une fausse information a beaucoup circulé l'année dernière lors du débat autour d'un projet de loi sur l'autodétermination du genre. Selon certains, dans le texte, attribuer le mauvais genre à une personne était passible d'une amende de 10 000 euros. Mais il n'en a jamais été question. D'ailleurs, il n'en est question nulle part. Début 2023, 11 pays européens avaient des lois qui fondaient la reconnaissance du genre sur l'autodétermination. En gros, chacun décide s'il est homme ou femme. On peut citer la Belgique, le Danemark, l'Irlande, le Portugal ou l'Espagne. Mais dans aucun de ces pays très libéraux sur la question, le mégenrage n'est considéré comme un crime ou un délit. L'Écosse ne devrait pas faire exception, car la police a déjà annoncé qu'elle laisserait J.K. Rowling tranquille. En fait, les syndicats de policiers sont fatigués à l'avance par cette loi qui ne fait, selon eux, que leur attribuer du boulot en plus, sans leur donner les moyens de le faire. Et ça aussi, c'est une question qui dépasse largement les frontières de l'Écosse.
Les universités en Belgique francophone sont en ébullition. En cause, un décret durcissant non seulement les conditions d'accès aux études, mais aussi les conditions pour rester dans le cursus universitaire. Mais même au sein de la coalition au pouvoir en Wallonie, la polémique va bon train, au point de menacer son maintien aux affaires. Et au centre de ce mouvement de contestation étudiant se trouve une jeune femme, la syndicaliste Emila Oxage, 25 ans, très visible dans les médias belges francophones ces dernières semaines. Notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Herry, l'a rencontrée.
Emila Oxage commande un café. Il faut bien, sourit la jeune femme de 25 ans, parce que la défense des droits des étudiants prend beaucoup de temps, de jour comme de nuit. Un événement dans son parcours a été fondateur, c'était en 2019, lorsque des étudiants ont été sommés de rendre l'argent de leur bourse après une erreur administrative.
On a occupé le gouvernement et le lendemain, on a eu une victoire. La ministre a annulé le remboursement de tous les étudiants et c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, la mobilisation étudiante, ça fonctionnait.
Suivront alors pour la déléguée d'amphithéâtre de Mons, deux mandats à la tête de la Fédération des étudiants francophones. Une vocation qui n'allait pas de soi. Mes parents, immigrés d'Albanie, n'étaient pas des militants. Ils travaillent énormément, souligne-t-elle, mais ça m'a construite.
J'ai compris directement la violence de ces inégalités.
À l'approche des élections, cette question étudiante est en train de fracturer la coalition gouvernementale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux des trois partis qui la composent, le PS et Écolo, s'étant rangés du côté des étudiants, laissant seul leur allié du MR, le mouvement réformateur de centre-droit.
Je pense qu'ils ont peut-être sous-estimé la force de la mobilisation étudiante. On a étudié le contexte des élections. Ces jeunes, ils vont voter dans quelques jours pour ces partis politiques. Ils sont pris entre la force de la mobilisation étudiante, leur vision de l'enseignement supérieur, le contexte des élections.
Prochaine discussion au sein du gouvernement sur le décret controversé dans un peu plus d'une semaine. Une journée de manifestation est déjà prévue le 16 avril. Emila Oxage espère un retrait. Ensuite, ce sera le diplôme en économie en août et la fin de l'engagement étudiant. Place au monde du travail où la jeune femme espère trouver un emploi et on aurait presque pu le deviner au sein d'un syndicat afin de défendre cette fois-ci les travailleurs.
People who live around the area like in Albania, the Vjosa is completely normal, but it's not. I think the Vjosa is the last wild and big river in whole Europe.
Faisons maintenant un détour par l'Albanie. La question de l'accès à l'eau dans un pays toujours très agricole est un enjeu vital pour les populations des campagnes, surtout si elles vivent près des toutes nouvelles stations balnéaires de la côte en plein boom touristique. C'est le cas des riverains de la Vjosa, l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe. C'est un reportage dans la vallée de Chouchitsa en Albanie de Louis Cellier.
Cette eau, on en a besoin. Cette eau, c'est notre vie. Nous l'enlever, c'est ruiner notre futur. Nous retirer le pain de la bouche. Sans eau, ce sera la fin pour le bétail et pour tous les usages que nous offre la rivière. En plus, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'eau dans la rivière.
Malgré la pluie, Suri Lanai déploie une large banderole sur les bancs de galets blancs formés par les eaux cristallines de la Chouchitsa. Avec d'autres éleveurs de cette vallée du sud de l'Albanie, il est venu lancer un SOS pour leur rivière. Depuis plusieurs mois, des tuyaux sont en cours d'installation afin d'acheminer l'eau à 17 km de là, de l'autre côté de la montagne, vers les stations balnéaires en pleine expansion de la côte albanaise. Astrid Balilai est l'un des élus locaux à l'origine de la manifestation.
Personne n'est venu nous informer. Tout est fait de façon cachée. Il n'y a pas de consultation publique avec la communauté. L'avis des habitants n'est pas écouté. Mais ici, dans la vallée, il n'y a pas un habitant qui est d'accord pour dévier l'eau de notre rivière et l'acheminer à Imara, sur la côte. Pas un habitant n'est d'accord. Notre seule richesse, c'est cette rivière.
Selon les ONG environnementales, le projet prévoit de prélever 140 litres d'eau par seconde directement à la source de la Chouchitsa. De quoi laisser à sec cette rivière à régime méditerranéen durant les longs mois d'été. Plus de 30 communes de la vallée seraient directement impactées par le manque d'eau à venir. Les travaux en cours révoltent Alban Muchai, un militant écologiste venu de Tirana, apporter son soutien aux habitants.
C'est une grande injustice qui va détruire tout un écosystème. Les habitants y sont opposés, mais les autorités ont imposé leur décision. Si ce projet se réalise, ça veut dire que les gens n'ont plus de droits, qu'ils n'ont plus le droit de participer aux décisions les concernant. En plus, ici c'est un parc national. Cette rivière est un affluent de la Viosa. Il faut donc respecter le cadre de protection.
La colère est d'autant plus grande qu'il n'y a même pas un an, la Chouchitsa et ses 80 km de long obtenaient officiellement un statut de protection. En mars 2023, le gouvernement albanais et la marque de vêtements de sport Patagonia célébraient en grande pompe la création d'un parc national inédit visant à sanctuariser la Viosa et plusieurs de ses affluents, dont la Chouchitsa. Aujourd'hui, les écologistes déchantent. Bessiana Gouri, de l'ONG Eco-Albania.
Dans un parc national, l'une des premières choses qu'il faut interdire, c'est détourner l'eau des rivières. Si on détourne l'eau du lit de la rivière, cela a un impact sur la biodiversité et le climat de la zone, mais aussi sur l'économie locale, car ici, la vie des habitants dépend de la rivière. Surtout dans un parc national, les habitants espèrent un type de développement différent, un écotourisme qui leur permet d'assurer des revenus durables. Donc ce projet n'est pas bien pensé. C'est normal que les municipalités de la côte aient besoin de s'approvisionner en eau, mais le lieu retenu pour les alimenter n'est pas le bon.
Ce projet de détournement de l'eau d'une rivière protégée ne surprend qu'à moitié les défenseurs de la nature. En quelques années, la fréquentation touristique a presque doublé en Albanie, avec un record de 10 millions de visiteurs atteints l'an dernier. Le secteur pèse déjà près du quart du PIB local et les autorités albanaises semblent tout miser sur le développement d'un tourisme de masse sans grand souci des conséquences environnementales. Annette Spagenberg travaille pour l'ONG allemande Euronature qui soutient les associations albanaises.
Ces travaux au sein d'un parc national sont tout simplement illégaux. L'étude d'impact environnemental n'est pas fiable. Elle n'a pas mesuré l'impact du détournement de l'eau sur la Chouchitsa et sur le parc national de la Viosa. Je pense qu'en proclamant le parc national de la Viosa, le gouvernement pensait peut-être qu'il aurait les mains libres pour développer ses autres projets liés au tourisme et que l'on ne dirait plus rien.
Les habitants et les écologistes exigent l'arrêt immédiat des travaux et une nouvelle étude d'impact environnemental. Mais ils s'inquiètent aussi d'un récent changement législatif voté par la majorité socialiste. Cette modification ouvre la voie à la construction d'hôtels de luxe au sein même des zones protégées du pays.
C'était Accent d'Europe à la réalisation David Brockway. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr ou sur l'appli Pure Radio ou encore sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles. Restez avec nous, bien sûr, l'information continue sur RFI.